Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. De tous les commissaires européens, il est celui dont la mission paraît la moins essentielle aujourd'hui. L'Autrichien Johannes Hahn est en charge de l'élargissement de l'Union. Or, l'Union s'apprête à rétrécir. Le Royaume-Uni déclenche ce mercredi l'article 50 du traité de Lisbonne, autrement dit le début des négociations en vue de sa sortie. Et pas question de compenser ce départ avant la fin de la décennie. Il n'y aura pas de nouvel élargissement d'ici 2020, a prévenu Jean-Claude Juncker, le président de la Commission. Ils sont pourtant quelques-uns à attendre sur le pas de la porte. 6 pays ont entamé des négociations en vue de leur adhésion. Le dernier en date, la Bosnie-Herzégovine, en février 2016, précédé de quelques mois, voire années, par ses voisins des Balkans, Serbie, Monténégro, Macédoine, Albanie. Et bien sûr la Turquie qui fait toujours mine d'être candidate face à des Européens qui font toujours mine d'examiner sa candidature. À ce tableau, il faut encore ajouter ceux qui, en toute logique, devraient y être, mais refusent pourtant d'adhérer. La Suisse a retiré sa candidature l'an dernier, l'Islande l'avait fait en 2015, la Norvège a déjà répondu non par deux fois. Alors les frontières de l'UE sont-elles définitives ? Eh bien, nous posons la question ce soir à trois invités. Marion Gaillard, bonsoir. Vous êtes historienne, maître de conférences à Sciences Po, spécialiste des relations franco-allemandes et de la construction européenne. Pour discuter avec vous, Michel Fouché, bonsoir.
Bonsoir.
Géographe, ancien ambassadeur, spécialiste des frontières. Vous avez signé entre autres ouvrages, mais je vais citer celui qui me semble-t-il est le dernier, Le retour des frontières aux éditions du CNRS. Et puis Clémentine Forissier, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste, rédactrice en chef de Contexte. Contexte, le journal des professionnels des politiques publiques françaises et européennes. Alors, je vous propose de démarrer cette émission avec ce déclenchement de l'article 50 par la Première ministre britannique, Theresa May. Pour vous, c'est une perte de quelle nature pour l'Union européenne que ce départ, donc, non pas effectif aujourd'hui, mais enfin... plus qu'officiel en termes de négociation du Royaume-Uni de l'Union européenne. Clémentine Forissier.
Ah, c'est une question, c'est une perte de quelle nature ? Moi je dirais que c'est quand même une grosse perte, c'est-à-dire qu'on peut dire que les Anglais étaient parfois certains des boulets aux pieds parce que sur un certain nombre de sujets ils négociaient des dérogations pour ne pas se voir appliquer certaines politiques, etc. C'est vrai qu'on avait l'impression que c'était un peu un frein. Dans un autre sens, et pour revenir à la thématique de l'émission, c'est quand même la première fois qu'un pays se retire de cette façon de l'Union européenne. D'ailleurs, on voit bien qu'on ne sait pas très bien comment ça va se passer. On a prévu 2 ans dans les traités, mais enfin, les gens qui ont rédigé cet article pensaient que jamais il serait appliqué. Et puis, effectivement, quand on commence à partir, jusqu'où est-ce que ça peut aller ? Est-ce que ça peut donner des envies à d'autres ? On voit bien dans la campagne présidentielle française que du coup, c'est redevenu. Alors, le FN a toujours cette thématique-là à la bouche, mais même Jean-Luc Mélenchon maintenant est un peu plus clair aussi sur cette question où il ose dire, si jamais j'arrive pas à créer le rapport de force qu'il faut, j'irai jusqu'à la sortie, etc. Donc c'est toujours un peu, si on pense que l'Union européenne est un espace politique qui vaut le coup, c'est toujours un peu inquiétant de voir un État et en plus un État de poids comme le Royaume-Uni, aussi bien d'un point de vue culturel, historique, économique, géopolitique, qui quitte cet espace en réalité.
Donc on pourrait dire que ça pourrait être une forme de perte exemplaire, en tout cas possiblement exemplaire, dans la mesure où elle pourrait donner des idées à d'autres. Marion Gaillard, sur cette question, alors peut-être que je vais un petit peu préciser ma question. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que l'Union européenne perd de sa souveraineté avec ce départ annoncé du Royaume-Uni ?
J'aurais pas forcément dit perdre sa souveraineté. D'abord, pour répondre à la première question, c'est effectivement, je rejoins ce qu'a dit Clémentine Forissier, c'est une perte de nature symbolique. Parce que c'est effectivement la première fois, et même si c'est une perte sur bien d'autres sujets, comme ça a été rappelé, économique, militaire, c'est quand même un danger, effectivement, de détricotage de l'Union. On a parlé d'un possible Frexit avec Marine Le Pen, mais il y a eu aussi un moment, un débat sur un exit, c'est-à-dire une sortie des Pays-Bas. Est-ce que l'Union européenne perdrait sa souveraineté ? Quelle souveraineté ? Dans quel domaine elle est souveraine ? Elle est souveraine en partie sur le plan monétaire pour ce qui est de la zone euro, mais le Royaume-Uni n'en faisait pas partie, le Royaume-Uni ne fait pas non plus partie de Schengen. Donc de ce côté-là, pas forcément en termes de souveraineté, c'est plus un poids économique d'abord. Je rappelle qu'une fois que le Royaume-Uni sera sorti de l'Union, nous ne serons plus le premier PIB mondial, donc ça va être une perte économique importante, commerciale évidemment, on parle aussi de la place financière de Londres, donc voilà. Par contre, ce qui est aussi drôle, c'est que vous avez dit que ça pourrait, enfin l'Union Européenne va rétrécir, mais le Royaume-Uni pourrait lui-même aussi rétrécir, donc on en reparlera je suppose.
Oui, parce qu'on va parler de ce à quoi vont ressembler les frontières post-Brexit, on va peut-être le faire dans un instant, notamment avec vous Michel Fouché. Le Royaume-Uni part, mais peut-être que les Écossais pourraient tenter d'y revenir. Hier, le Parlement écossais a justement annoncé son intention d'organiser un nouveau référendum d'indépendance. Il y en avait eu un en 2014. L'indépendance avait été rejetée, mais les conditions aujourd'hui sont différentes. Michel Fouché.
Je pense qu'il est raisonnable de considérer le Brexit encore une fois comme une hypothèse. Il n'a pas eu lieu. On n'en a pas encore vu les effets économiques, financiers, un tout petit peu au plan migratoire. La négociation n'a pas encore commencé. Ça va être compliqué et probablement dans 2 ans, il n'y aura pas d'accord. Il peut y avoir une sortie sans accord. C'est un scénario possible parce que les Britanniques veulent mêler 2 négociations distinctes, la négociation de retrait et la négociation sur le nouveau statut. Je rappelle que ce référendum n'était que consultatif et que 48% et quelques des votants sont contre le Brexit. Alors ils sont extrêmement disciplinés parce que les travaillistes jouent un double jeu et ont peur de perdre les prochaines élections. Mais je ne vois pas comment les choses pourront tenir aussi longtemps sans élections anticipées.
Donc pour l'instant, pour vous, il faut continuer de parler de l'Europe dès 28.
D'abord, cet événement n'a pas encore eu lieu. Il a lieu au plan symbolique, mais il n'est pas entré dans ses effets. Les choses ne sont pas dites. Et d'autre part, il n'y a pas d'effet domino. On observe exactement l'inverse. On observe l'inverse, c'est-à-dire que les rangs se resserrent. C'est pour ça que les Polonais, d'ailleurs, se sont en quelque sorte alignés au moment de la réélection du Polonais qui est président du Conseil européen. Attention, tout le monde a compris que ce Brexit avait été gagné sur la base d'un mensonge.
Clémentine Forestier n'a pas l'air tout à fait d'accord, non pas sur le fait que ça ait pu être gagné sur la base d'un mensonge, bon là ce qui pourrait faire encore l'objet d'un autre débat, mais sur l'idée que d'abord que ça n'est pas fait et que l'Union européenne se resserre.
Alors sur l'idée que ça n'est pas fait, honnêtement c'est de la politique fiction, donc voilà c'est très compliqué de le dire aujourd'hui. Je pense que concrètement c'est juste que la négociation sera difficile, etc. Après politiquement revenir sur ce qui a été voté par référendum, c'est quand même toujours très très compliqué. Donc moi je pense que ça va avoir lieu, mais ça c'est vraiment voilà c'est après c'est des analyses qui peuvent se discuter dans les deux situations. Ce qui est vrai c'est que les Européens sont aujourd'hui assez unis au démarrage en disant et très vite finalement se sont unis pour dire voilà il faut qu'on ait des lignes communes par rapport aux Britanniques parce que il faut pas qu'on si on démarre cette discussion avec ne serait-ce que des signes de division ça sera extrêmement compliqué. Après très honnêtement, ça va être compliqué aussi pour les Européens en leur sein de rester unis parce que tout le monde, et c'est très normal, a des intérêts divergents à protéger, etc. Je pense pas, si on est de nature optimiste, je pense pas que ça sera forcément après qu'il y aura d'autres pays qui vont partir, mais je dirais que en tout cas, ça n'aide pas à faire ressentir que ce projet européen est quelque chose qui est voilà qui ne peut pas bouger ou qui a une histoire qui de toute façon est écrite au moins dans sa structure, etc. Je trouve que c'est plus un signe de c'est plus un signe négatif qu'un signe positif pour les Européens et pour l'Union européenne dans son existence même, je trouve.
Alors plutôt que peut-être que d'aller sur ce terrain des hypothèses, même si le processus est engagé mais comme vous dites Michel Fouché, pour l'instant le Royaume-Uni fait toujours partie de l'Union européenne. Allons peut-être plutôt du côté des certitudes, puisque ce soir nous évoquons les frontières de l'Union européenne. C'est pas uniquement une émission consacrée au Brexit. La certitude, en tout cas à ce jour, c'est qu'un certain nombre de pays de l'Europe de l'Ouest, Europe de l'Ouest, Europe du Nord, refusent d'adhérer à ce projet. Ce sont des informations qui sont passées relativement inaperçues, mais la Suisse, par exemple l'an dernier, 15 juin, alors il faut dire qu'on était en pleine campagne du Brexit, la Suisse qui retire formellement sa demande d'adhésion un an plus tôt, l'Islande, en avait fait autant. Elle avait commencé à engager des négociations, puis finalement, elle s'est retirée. Et puis la Norvège, qui n'a jamais voulu, malgré deux référendums, rejoindre l'Union. Est-ce que ça veut dire que de ce côté-là, on est face à des frontières qui sont inachevées du point de vue du projet initial de construction européenne, Marion Gaillard?
Alors, le projet européen, il a intrinsèquement vocation à s'élargir. Ça fait partie du projet des pères fondateurs. Donc les frontières de la communauté à l'époque et de l'Union aujourd'hui, elles sont par définition mouvantes, puisque l'Union européenne n'est pas une entité géographique, c'est un projet politique qui se raccroche à un espace géographique qui est l'Europe. On ne parle pas d'Union africaine ou d'Union asiatique, mais en tout cas, ça ne se recoupe pas encore complètement. Il faut rappeler aussi que les pays qui ont voulu rentrer dans l'UE, justement, le font en poursuivant un intérêt. Ça, on a tendance à l'oublier. On ne rentre pas dans l'Union européenne juste pour être sympathique, pacifique et avoir une bonne image. On rentre parce qu'on a un intérêt. Or, si on prend l'exemple de la Norvège, il n'avait pas nécessairement un intérêt à rentrer dans la mesure où c'est un pays se suffit à lui-même sur le plan économique, notamment en raison des réserves pétrolières. Et donc, il voit pas tellement pourquoi aller s'embêter à intégrer un espace au sein duquel il va falloir qu'ils délèguent une partie de leur souveraineté. Donc, si vous voulez, il faut que finalement la balance soit positive entre les abandons de souveraineté que l'on concède et les bénéfices que ça nous rapporte. La Suisse, c'est pareil, ça peut peut-être changer un jour si les choses évoluent plus que ça n'évolue déjà sur la question bancaire et que finalement, économiquement, ils y trouvent un intérêt. Mais du coup, on a un projet qui a vocation à s'élargir, qui s'est élargi à de nombreuses reprises et en même temps, effectivement, on a toujours eu le décalage entre les pays qui veulent rentrer et les pays qui ne veulent pas rentrer, et puis des pays
et qu'on aimerait bien faire rentrer pour
voilà,
autant.
Voilà, exactement. Et des pays qui ne peuvent pas rentrer, parce qu'au départ, les Britanniques, les Irlandais et les Danois ne voulaient pas rentrer, donc ils ne sont pas rentrés, mais ils avaient la possibilité de le faire, étant donné qu'ils étaient des démocraties. Et par contre, l'Espagne et le Portugal ne pouvaient pas et sont rentrés quand ils sont devenus des démocraties. Donc on a toujours eu ce jeu entre pouvoir et vouloir.
Comment vous expliquez ce décalage de Michel Fouché et Clémentine Forissier?
Moi, je conteste un peu le sous-jacent de votre question, parce qu'il n'y a aucune raison que le projet de construction européenne ait pour finalité de coïncider avec le continent.
Bah, c'est l'avenir... un débat qui a eu lieu, justement,
sur l'avenir
sur
de l'Union
question,
européenne, c'est pas de devenir le Conseil de l'Europe. Il y a d'autres structures sur le droit, sur l'éducation, sur la sécurité, l'OSCE, dont je rappelle que ça va de Vancouver à Vladivostok. Il y a le Conseil de l'Europe, avec l'Asie centrale et le Caucase. Je crois qu'il faut... Donc, il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Alors, la Norvège et la Suisse pourraient intéresser certains parce qu'ils sont des contributeurs. Mais moi, je trouve qu'il est préférable pour l'équilibre européen que la Suisse reste ce qu'elle est. Hein, parce que ça poserait des problèmes ensuite, y compris internes. Et puis, les Norvégiens... Donc, la question, c'est pas ça. Hein, c'est pas l'élargissement continu. Je pense que maintenant... cet élargissement est durablement arrêté et c'est une bonne chose. On parlera de la Turquie tout à l'heure. Sur les Balkans, il faut organiser quelque chose de particulier. Il faut faire du sur-mesure sous la forme d'États associés. Et il faut surtout redonner de la consistance interne, je dirais, aux Européens historiques.
Pourquoi est-ce que vous dites que c'est une bonne chose que l'élargissement soit pour l'instant arrêté pour un bon moment ?
On n'en peut plus. On n'en peut plus, à la fois en termes de fonctionnement. Hein, un Conseil européen avec 28, c'est 3 minutes de temps de parole. Donc ça se passe dans les couloirs.
Bah alors ça ira mieux avec 27.
Et comment voulez-vous, moi je suis très profondément européen, je ne peux pas me sentir membre d'une communauté politique si je ne connais pas son territoire. Si je ne sais pas où est la limite entre l'intérieur et l'extérieur. D'ailleurs, il est abusif de parler de frontières de l'Union européenne. On parle de frontières pour un État. L'Union européenne n'est pas un État. Donc l'Union européenne a des limites composées de segments étatiques. Il faut être extrêmement précis là-dessus.
Mais on peut dire qu'il y a 28 frontières, autant d'États.
Enfin... Oui, mais ça donne des limites. Ça ne donne pas la frontière de l'Union européenne. Et je crois qu'il est temps de revenir à cette... Comment peut-on avoir une politique extérieure si on ne sait pas où est l'extérieur ? On ne sait pas où est l'extérieur. Il faut sortir de cette logique d'élargissement. Il faut faire une pause durable. Il faut passer à ce qu'on appelait autrefois l'approfondissement sur d'autres sujets que l'économie, c'est-à-dire la politique, la défense, la sécurité.
Clémentine Fraissier.
Ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez les textes fondateurs de l'Union européenne et les traités et une certaine partie du droit, on ne parle jamais de territoire, on parle d'espace. Vous avez un espace de libre circulation des personnes, des biens, des marchandises, etc., qui sont associés à certaines fonctions spécifiques. Alors c'est Thierry Chopin que Michel Fouché connaît bien, qui travaille à la Fondation Bachmann, qui a fait un article là-dessus récemment, et il disait bien, il y a la monnaie, il y a le libre-échange, il y a la sécurité, mais on ne parle pas de territoire. On n'a jamais vraiment posé la question des frontières, en fait, et de cet espace politique associé à un territoire précis. C'est peut-être d'ailleurs un problème, et c'est peut-être aussi pour cette raison que aujourd'hui, dans plein de pays de l'Union européenne, les populismes, tels qu'on les appelle, on le vend en poupe. Et c'est très lié à la question, le territoire est lié à la question de l'identité. Et le populisme pose cette question de l'identité. Et tant qu'on n'aura pas posé cette question de comment justement le territoire de l'Union européenne est défini, ce qui implique plein de choses, hein, si on accepte de se la poser, ça, à mon avis, on se retrouvera confronté à ce problème-là.
Et ça veut dire que si on accepte de se la poser, ça veut dire que cette question-là, elle n'a jamais été posée. Si, elle a bien dû être posée quand même, justement, les limites géographiques de l'Union européenne, les limites, je ne sais pas moi, politiques, les limites culturelles, par exemple, de l'Union européenne. On sait bien quand même que depuis des années, justement, c'est ce qui peut aussi opposer ceux qui défendent cette construction, mais qui n'y voient pas forcément les mêmes éléments pour construire.
Elle n'a jamais été posée de manière franche et directe entre les pays de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Quel est le territoire de l'Union européenne ? On parle de communauté de valeurs, on parle de principes, on parle de respect de l'état de droit, il y a des valeurs qui nous rassemblent, mais il n'y a pas un espace politique clairement déterminée comme c'est le cas pour un État, par exemple. Cette question-là n'a jamais été véritablement posée.
Est-ce que le fait que cette question n'ait jamais été posée, Marion Gaillard, pose justement le problème d'une difficulté à percevoir justement ce qu'est cette, ou ce que devrait être cet espace de l'Union européenne, parce qu'on a presque le sentiment que l'élargissement pourrait être sans fin, c'est-à-dire que pourquoi pas avoir, au-delà des problèmes de fonctionnement, pourquoi pas avoir une Union européenne à 40 pays, par exemple. Enfin, je veux dire, en soi, c'est quelque chose qui peut être imaginable. On peut même imaginer que la Russie, un jour, fasse partie de l'Union européenne, pourquoi pas.
Pourquoi pas ? Ou pourquoi il faudrait pas ? Ou pourquoi il faudrait les prendre ? Les textes sont clairs sans être clairs. C'est-à-dire les textes disent bien tout État européen respectant les critères politiques de démocratie au sens strict du terme, parce que l'Union européenne a des critères assez stricts en la matière, les critères économiques et la reprise de l'acquis communautaire, ce qu'on appelle la reprise de l'acquis communautaire, c'est-à-dire l'intégration en droit interne des normes juridiques européennes. Une fois qu'on a rempli ces trois critères, tout État européen peut intégrer. Et donc ça nous renvoie au sujet de qu'est-ce qu'un État européen ? Et donc, où sont les frontières naturelles, entre guillemets, je mets plein de guillemets, de l'Europe, dans la mesure où justement c'est un continent qui n'a pas vraiment de frontières naturelles. Mais le texte, c'est tout État européen, ce qui veut bien dire que justement, comme vous le disiez tous les deux, ils n'ont pas tranché. En fait, ils n'ont pas vraiment voulu trancher. Mais parce qu'ils se sont dit que, et c'est les textes de la Commission européenne qui vont dans ce sens, que l'Europe se définit au fur et à mesure de sa construction. Donc c'est un processus, c'est une construction politique et que du coup, eh bien, on n'a pas vraiment tranché. Et on n'a pas tranché d'abord dans les années 50 pour une raison simple, c'est qu'il apparaissait clair que les frères de l'Est, comme on les appelait, avaient vocation à nous rejoindre parce que personne ne peut nier l'européanité de la Hongrie ou de la Pologne, par exemple, dans l'histoire, la culture européenne.
Donc, on peut redire autant aujourd'hui, par exemple, de la Serbie.
Tout à fait, mais la Serbie, comme vous l'avez rappelé en introduction, elle est candidate. Et pour moi, là, je suis un peu en désaccord avec Michel Fouché parce que concernant les Balkans, ils sont clairement européens et donc ça me semble compliqué de les laisser dehors et le processus est engagé. Est-ce qu'il aboutira ? Je ne sais pas, mais il est quand même bien engagé avec certains pays, notamment le Monténégro.
Ce processus, il n'aurait pas fallu l'engager pour vous, Michel Fouché ?
Non, c'est pas ça, mais c'est qu'il faut. On est en train de créer quelque chose d'inviable parce qu'il y a un impensé géopolitique. Et que la construction européenne, on l'a en quelque sorte essentialisée, parce qu'on en parle toujours, encore là la semaine dernière, hors contexte. C'est une réponse à un contexte. Staline, les partis communistes en France, en Italie, donc la pression américaine avec le plan Marshall pour forcer les Français qui n'en veulent pas à la réconciliation franco-allemande. Donc la guerre froide, premier contexte. Deuxième contexte pour un certain nombre d'États, la décolonisation. On va signer le traité de Rome. D'ailleurs, la France n'envoie pas de personnalité de tout premier plan quelques mois après la défaite géopolitique de Suez. La réconciliation franco-allemande, de Gaulle à Adenauer à Reims, 16 semaines après la signature des accords d'Alger, le message de De Gaulle aux Français, c'est « Mes amis, l'Empire est fini. L'Empire est fini. L'autre base de la puissance française que je vous propose, c'est l'Europe, c'est-à-dire le pivot. » Ensuite, nouveau contexte, l'effondrement de l'Union soviétique et les pays satellites qui se raccrochent rapidement, et puis l'OTAN derrière ça, parce que moi je me souviens très bien quand même que l'élargissement dans l'OTAN a eu lieu quelques semaines avant l'élargissement de 2004, hein. J'ai essayé de gérer ça quand j'étais ambassadeur dans les pays baltes, et là on est dans un nouveau contexte qui est la crise de la globalisation, la fin de la Pax Americana, Erdogan, Poutine. Et il y a un décalage entre notre structure actuelle, qui au fond est encore celle de 91, et le nouveau contexte. Il faut qu'on passe, je l'ai écrit dans le dernier rapport Schuman, d'un grand marché à quelque chose que j'appelle la grande stratégie. C'est-à-dire qu'on cesse. Et là, il faut raisonner en termes de territoire, il faut raisonner en termes d'identité, il faut raisonner en termes de sécurité. Ceux qui sont sur le chemin, une formule transitoire d'État associé. Il ne s'agit pas de mettre les gens dehors, mais on ne peut pas. Il faut sortir la logique du tout ou rien.
Marion Gaillard.
Moi, je partage complètement ce qui vient d'être dit sur l'importance du contexte. Clairement, ça s'est pas fait hors les murs et hors tout contexte géopolitique. C'est évident que la crise de Suez a eu un impact énorme dans la ratification par la France du traité de Rome. C'est parce que on était dans une position de déconfiture totale. Donc ça, c'est évident, de même que la fin de l'Union soviétique a précipité le processus de Maastricht qui était déjà en cours avant. Mais justement, le contexte là nous appelle, je suis d'accord aussi, à avoir une Europe forte, qui se pense comme un acteur géopolitique face aux menaces qui pèsent sur elle. Mais pour autant, j'en tire pas forcément la même conclusion sur l'appartenance ou non à l'UE des pays des Balkans. Par ailleurs, sur les valeurs, on est d'accord sur un certain nombre de valeurs, mais en même temps, on voit qu'à l'intérieur même de l'UE actuelle, on a des dissensus relativement importants, c'est le moins qu'on puisse dire, sur les valeurs, avec la Hongrie par exemple en ce moment. Donc, ça me semble aussi compliqué d'éloigner certains pays, alors même qu'à l'intérieur de l'UE, on a d'autres pays qui posent problème aujourd'hui.
Sur la question des Balkans, il y a la responsable de la politique étrangère européenne, Federica Mogherini, qui était en visite début mars, justement dans les pays qui sont candidats, qui s'inquiétait de l'instabilité politique de la région et qui y voyait justement une des raisons pour, si ce n'est accélérer, mais enfin en tout cas ne pas lever le pied sur les négociations avec ces pays-là. Clémentine Forissier, qu'est-ce que vous pensez de ce contexte? Je précise d'ailleurs, comme vous êtes la rédactrice en chef de Contexte, que c'était pas de la publicité déguisé, les précédentes
Même
interventions.
Même si je suis particulièrement d'accord avec le fait que c'est extrêmement important de restituer les choses dans leur contexte. L'élargissement de l'UE en 2004 a été hyper critiqué, et notamment dans des pays comme la France, mais pas que, où on a dit on n'aurait pas dû le faire, ou en tout cas on n'aurait pas dû le faire si vite, on aurait dû le penser différemment, etc. Peut-être d'ailleurs...
10 pays d'un coup, on est passé
voilà,
de 15 à 25.
10 pays d'un coup, c'était une absorption qui était perçue comme complètement indigeste, en fait, par pas mal de la population. Ça a quand même eu un effet, enfin je veux dire, hyper positif pour ces États, et pas... On parle souvent de l'économie, mais je veux dire, posons-nous la question de qu'est-ce qui se serait passé si on ne les avait pas intégrés à l'UE. Peut-être qu'on aurait pu le faire différemment, mais moi je pense que c'était une très bonne chose, et d'un point de vue géopolitique, c'était effectivement, à mon avis, une très bonne chose. Donc c'est peut-être pour ça que Federica Mogherini aussi dit il y a un levier très fort de la motivation de l'intégration à l'Union européenne pour que ces États puissent poursuivre leur processus démocratique, justement le respect d'un certain nombre de valeurs, etc., qui sont fondamentales. Je pense que c'est stratégique. Elle peut pas vraiment dire autre chose. Elle a pas le mandat, elle a pas la possibilité de dire autre chose. Aujourd'hui, elle peut juste dire faites attention, etc., mais elle peut pas rompre les négociations comme ça en disant vous allez trop loin. Il y a des discussions qui sont encadrées pour l'élargissement. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que je pense que cette question du stop à l'élargissement, à mon avis, elle est hyper importante, parce que aujourd'hui,
la question qui se pose et qui est soulevée par, je reviens aux extrêmes, c'est la question de la mondialisation et de l'ouverture versus fermeture. Et ce qui fait peur à un certain nombre de personnes dans pas mal de pays européens, c'est justement cette ouverture, cette mondialisation dont ils n'ont pas forcément tous pu bénéficier. Ça fait des fractures qui sont extrêmement fortes dans les différents pays. Et aujourd'hui, l'impression que donne ce projet européen, c'est justement de ne pas savoir s'il est ouvert ou fermé, jusqu'où il est ouvert, et donc de ne pas savoir quel est son avenir, sa vision, et vers quoi on va, en fait. Donc si on ne se pose pas la question, et la question du territoire, elle est liée, je veux dire, si on se dit qu'on peut s'élargir à tout jamais, effectivement, quels sont nos liens, quelles sont nos valeurs communes, quel est notre projet commun, c'est hyper difficile.
Alors, est-ce qu'il faudrait, par exemple, qu'il y ait une conférence refondatrice? J'évoque ce sujet parce qu'il se trouve que demain, Hubert Védrine sera l'invité des matins de France Culture et qu'il appelle à cette conférence. Mais en tout cas, une conférence qui peut-être, pourquoi pas, dirait Michel Fouché, Marion Gaillard, voici quels sont les pays qui ont vocation éventuellement à intégrer l'Union européenne, on donne une liste, on l'établit définitivement et comme ça, au moins, ça permet de savoir ce que pourrait être l'Union européenne dans son acception la plus large.
Mais pourquoi voulez-vous donner l'acception la plus large, comme si l'élargissement était la légitimité? C'est pas il faut pas partir d'une liste.
Pour qu'il n'y ait pas l'impression que cet élargissement peut être sans fin et que cette identité européenne, ou en tout cas cette citoyenneté européenne qu'on recherche, ne pourra jamais être atteinte.
Le problème dans les Balkans dont on a parlé, c'est qu'il n'y a pas d'État dans les Balkans. Et ça, c'est de notre faute. On a laissé faire. Donc il n'y a qu'un seul État, c'est la Serbie. Le reste, c'est pas des États. C'est ni des nations, ni des États. Et la question nationale albanaise est toujours pas réglée. Et le résultat, on a créé un machin qui s'appelle le Kosovo, qui est inviable. Le tiers de la population active est parti. Et encore l'année dernière. Donc ça, c'est un peu la suite de notre politique dans cette zone. Il faut commencer par ce qu'on a envie de faire en réponse à un nouveau contexte qui n'est plus le contexte triomphant euro-américain de 2004. On n'est plus dans le même contexte. Et dans ce nouveau contexte, où il y a à la fois des menaces, mais aussi des opportunités, il faut en effet savoir d'abord ce qu'on veut faire ensemble, en réponse aux nécessités, et ensuite, qui est intéressé par ça. Donc moi, je suis depuis toujours un fervent partisan de ce qu'on peut appeler poliment aujourd'hui une Europe différenciée. Arrêtons de donner des termes de vitesse, etc. C'est pas ça la question. C'est une Europe différenciée avec un groupe qui fera de la politique extérieure. C'est ça ce qui est discriminant. La question ne se pose pas sur le grand marché ou même sur les transferts, même si j'ai toujours pensé qu'on devait faire un peu moins pour la Pologne et beaucoup plus pour les Balkans, je l'avais écrit. Notre politique, et d'ailleurs Anne, il n'a plus grand chose à faire en matière d'élargissement, il est très occupé en matière de voisinage. Là, on a un outil extrêmement important, on devrait réduire les fonds structurels qui vont chez les membres de 2004 et nettement augmenter les fonds structurels qui sont alloués aux pays qui sont en effet sur le pas de la porte.
Marion Gaillard, sur cette question d'une Europe différenciée, qui revient, alors je sais que c'est sans doute pas l'utilisation la plus adéquate du terme, mais à créer d'autres frontières à l'intérieur de l'Union européenne.
Ce ne sont pas des frontières géographiques,
dans son acception la plus large du terme, on va dire.
Marion Gaillard. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau, en réalité, puisque l'espace Schengen est issu des accords de juin 1985, même s'ils ne sont rentrés en vigueur qu'en 1995, mais donc dès Schengen, en réalité, on est déjà dans cette Europe différenciée que d'autres appellent la géométrie variable, et donc on a en gros aujourd'hui déjà à l'intérieur, enfin même pas à l'intérieur de l'UE, mais disons dans l'UE, trois zones différentes, l'UE, à 28 pour l'instant effectivement, l'espace Schengen avec certains membres de l'UE qui ne sont pas dans l'espace Schengen, mais aussi des membres hors UE qui sont dans l'espace Schengen, notamment la Suisse, la Norvège ou le Liechtenstein et l'Islande, et puis la zone euro. Ça fait déjà trois espaces. Donc effectivement, l'intégration différenciée qui est beaucoup discutée en ce moment et critiquée souvent par les pays de l'Est, en fait, c'est une réalité de la construction européenne. C'est sans doute peut-être pas le rêve idéal du départ quand on était six, mais elle est, là, je suis complètement d'accord, incontournable, à 28 ou à 30 ou à 25, on verra bien. Mais c'est une réalité et il faut poursuivre dans ce domaine pour que ceux qui veulent aller plus loin puisse le faire, notamment en termes de politique extérieure et de défense. Mais là aussi, mon problème avec ça, c'est que finalement, qui on met dans le premier cercle? Parce qu'on n'est même pas sûr que les 6 États fondateurs veuillent vraiment être dans le premier cercle, hein, puisqu'on voit bien à quel point l'Europe, déjà rien qu'en France, qui est un pays fondateur, fait débat. Donc, c'est bien, je suis complètement d'accord, mais parfois, on me dit, mais alors, il faut faire un noyau dur. Je dis, oui, mais on met qui dans le noyau dur? Parce que si on a l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, ça va être compliqué. Et il y a quand même des pays qui sont très réticents. L'Italie, en ce moment, c'est pas non plus tellement facile sur le débat européen. Donc, la question, c'est sur quelle valeur, sur quel projet on se met ensemble et combien on arrivera à être dans ce premier noyau.
Clémentine Forestier.
Moi, je pense que la question du noyau dur avec les 6 États fondateurs, enfin, je pense qu'elle est plus adaptée.
Oui,
c'est plus une question. Mais pour, enfin, moi, il me semble qu'il y a un noyau dur qui existe et qui est hyper fort, c'est la zone euro. Je veux dire, aujourd'hui, avoir la même monnaie, c'est extrêmement structurant. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que l'inquiétude de Marine Le Pen est forte chez nos grands voisins qui en dehors de l'Union européenne? C'est parce que si un pays de la zone euro et notamment la France décide de quitter la zone euro, ben alors là, ça fait exploser l'ensemble de façon, à mon avis, définitive. Hein. Donc, je pense que l'Europe différenciée, en fait, ça sera la zone euro. Et puis ensuite, l'idée, c'est de fonctionner par projet. Après, il faut voir sur quel projet on avance ensemble à moins nombreux. Et ça, on se rend compte que c'est loin d'être une évidence. On l'a vu sur la taxe sur les transactions financières qui avance pas. Enfin, il y aurait d'autres exemples.
Puis notamment sur ce que vous disiez, Michel Fouché, qui est très important, c'est-à-dire la question de la politique étrangère et de la stratégie de l'Europe dans le monde. Tout le monde au sein de la zone euro n'est pas non plus sur la même longueur d'onde en matière de politique extérieure. Et puis après, dans la zone euro, il faudrait une zone euro plus approfondie, qui soit neutre fiscalement, par exemple. Donc tout ça, c'est encore très balbutiant.
Alors, on n'a pas encore évoqué la question de la Turquie. Il nous reste plus beaucoup de temps. La Turquie qui, aujourd'hui, fait partie de la politique extérieure de l'Union européenne, dans la mesure où elle n'en fait pas encore partie. Le 30 juin 2016... un nouveau chapitre a été ouvert, 35 chapitres de négociation, il y en a 17 qui ont été ouverts, celui-là c'était sur les questions budgétaires et financières. Ça sert à quoi aujourd'hui de poursuivre des négociations entre l'Union européenne et la Turquie? C'est-à-dire, on a l'impression que personne n'ose dire, n'ose être celui qui va interrompre les négociations le premier. Mais est-ce que c'est une impression fausse, Michel Fouché?
Faut se souvenir des changements de position. Moi, j'y étais il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années, du côté de Schröder et de Chirac sur la Turquie. On était contre, puis Schröder s'est rendu compte que les électeurs allemands d'origine turque votaient à 90% pour le SPD. Donc il a changé d'avis. Et vu de France, la Turquie s'est plutôt vue comme un pays du Sud. C'est pour ça qu'on a poussé Malte et Chypre en 2004. Hein, pour faire pièce, il y a toujours cette idée quand même de l'Europe centrale sous domination allemande. Ça date de Napoléon III et de l'Europe du Sud. Donc il y a eu un accord Chirac-Schröder pour lancer des négociations. Hein. Bon, il y a un peu d'hypocrisie dans tout ça. Aujourd'hui, là, il y a une divergence absolue des trajectoires entre l'Union européenne et la Turquie, pour toute une série de raisons. Ça date pas d'hier, ça. Erdogan a d'ailleurs utilisé les négociations d'adhésion pour marginaliser l'armée, qui était porteuse des valeurs du kémalisme, au nom de la séparation du pouvoir dans les critères de Copenhague. Copenhague, c'est Montesquieu pour l'économie, plus l'économie de marché. C'est ça, les critères de Copenhague de 93. Donc, il faut arrêter ça, le dire, et rebâtir, je parle comme diplomate, ce qu'on appelait autrefois une politique turque, comme on a eu une politique russe ou une politique arabe. C'est ça ce qu'il faut faire.
Le patron des diplomates français, qui est le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, il dit « arrêter la négociation serait une profonde erreur ». Enfin, il le disait en juillet dernier, juste après la tentative de putsch manquée. « Arrêter la négociation avec la Turquie serait une profonde erreur. C'est précisément le dialogue qui permet à la partie la plus moderne et la plus démocratique de se sentir soutenue. »
Ça, c'est tous nos amis qu'on connaît à Istanbul. Malheureusement, ils sont minoritaires dans leur propre pays. Il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose.
Clémentine Forestier.
Non, mais là, franchement, soyons réalistes. Je pense que Jean-Marc Ayrault ne pouvait pas à ce moment-là tenir une discute. Aujourd'hui, il se passe une chose très claire. Alors là, je parle du court terme avec la Turquie.
on ne peut pas dire qu'on arrête les négociations avec la Turquie pour une raison simple, c'est la question des réfugiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un accord qui a été conclu. Alors, Angela Merkel est allée d'ailleurs toute seule à Ankara l'année dernière pour discuter avec Erdogan pour dire « bon, tu t'occupes de gérer cet afflux de réfugiés qui rentrait par la Grèce, on ferme la frontière avec la Grèce, ils arrivent en Turquie et ils sont contenus en Turquie. » Et aujourd'hui, les Européens et les Turcs se tiennent respectivement par la barbichette parce qu'il y a cet accord sur les réfugiés et que les uns ont des intérêts à ce qu'il soit maintenu, les deux ont intérêt à ce que cet accord soit maintenu. Et si jamais, par hasard, une des deux parties lâche, tout le monde est perdant. Mais là, je parle d'une gestion à court terme. Après.
Parce que dans les conditions de l'accord, il y avait l'idée, justement, de poursuivre et de.
D'accélérer
les négociations. Mais ce qui est alors que la Turquie, enfin, le gouvernement turc n'a pas l'air non plus, très en appétit par rapport à cette idée d'adhérer à l'Union européenne. Enfin, quand on voit la crise qui vient d'avoir lieu, avec notamment, les Pays-Bas, ce qui a été dit, sur Angela Merkel, on peut pas dire que comme candidat à l'adhésion à l'Union européenne, ce soit les meilleures façons de faire.
Mais en fait, personne n'en a envie aujourd'hui. Ni les Européens, ni le pouvoir en place en Turquie, en réalité. Et d'ailleurs, ils ne font rien, les Turcs ne font rien pour accélérer sur les chapitres qui pourraient être des chapitres cruciaux pour justement cette adhésion. Et dans l'accord pour les réfugiés, il y avait effectivement l'accélération des négociations d'adhésion. Mais il n'y a rien qui est fait objectivement, concrètement, des deux côtés pour que ça avance.
Les frontières de l'Union européenne sont-elles définitivement fermées à la Turquie, Marion Gaillard ?
A priori, oui, en tout cas dans un avenir à moyen terme. Si jamais il était souhaitable qu'elle rentre, on a loupé le coche, clairement, il y a une dizaine d'années, au moment où il y avait le plus d'avancées démocratiques, je mets des guillemets aussi, en Turquie.
Parce qu'il faut dire que ça remonte loin, oui, les discussions.
La Turquie a été reconnue comme État candidat officiellement, effectivement, lors du Conseil européen d'Helsinki en 1999, notamment par Chirac et Schröder, comme ça a été rappelé. Les négociations ont débuté en octobre 2005. Et puis, finalement, très rapidement, des chefs d'État et de gouvernement ont dit que finalement, la Turquie n'était pas européenne. Et donc, on a ralenti les négociations. Et du coup, le paradoxe, c'est que là, pour cette question des réfugiés, parce que pour pouvoir sous-traiter cette question des réfugiés, on a accepté éventuellement d'accélérer les négociations au moment même où la Turquie répond encore moins aux critères d'adhésion que 10 ans avant. Ce qui fait que c'est une politique totalement ubuesque en réalité.
Parce qu'en fait, il n'y a pas de négociation. On dit ça, mais il n'y en a pas.
Oui, on fait semblant, mais en tout cas...
Non, mais il n'y en a pas, donc, voilà. Et quant aux réfugiés, il y a du chantage permanent, parce que la crise syrienne de 2015 et début 2016 a été exceptionnelle, et aujourd'hui, malheureusement, les Syriens, ils ne sortent plus de chez eux. Hein. Donc, c'est un chantage qui est sans fondement.
Une toute dernière petite question, un sujet que j'ai pas encore complètement évoqué. Lors du débat de 5 des candidats à la présidentielle sur TF1, c'était le 20 mars dernier, Jean-Luc Mélenchon a évoqué l'idée d'une conférence sur la sécurité en Europe pour y négocier les frontières, en tout cas pour y discuter de frontières qui seraient litigieuses. Michel Fouché,
oui,
juste
non,
un mot, vous en pensez quoi de cette initiative ?
Je crois qu'il a confondu avec le projet Medvedev de 2008 d'une grande discussion sur la création d'un pacte de sécurité pour le continent européen. Reste à savoir si dans la vision russe de 2017, ça ne signifie pas que les États-Unis quittent définitivement le continent européen. Hein, c'est la fin de l'OTAN en réalité. Mais c'est sûr qu'il faudra un jour reprendre ce dossier d'une architecture de sécurité, parce qu'il y a toute une série de traités sur le nucléaire, sur le stationnement des forces, qui ne sont plus respectés.
Et ça suppose peut-être que l'Union européenne ait une vraie force diplomatique pour mener ce genre de discussion, Marion Gaillard.
Oui, alors en tout cas sur l'idée de réouvrir les discussions sur les frontières en Europe, ça me semble extrêmement dangereux. Parce qu'on sait tous que les frontières sont mal tracées pour certaines d'entre elles en Europe de l'Est. On voit bien par exemple que le Jobbik hongrois réclame la Transylvanie roumaine parce qu'elle est peuplée pour beaucoup de Magyars. Mais si on commence à réouvrir ce dossier, c'est vraiment la boîte de Pandore et c'est catastrophique. Donc c'est extrêmement dangereux. Donc si c'est ça qui était sous-entendu par Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu inquiétant.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Marion Gaillard, Clémentine Forissier et Michel Fouché. Discussion que vous pouvez retrouver comme chaque soir sur notre site internet franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Un grand merci à toute l'équipe du Grain, Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Cyril Baer, Louise Fuseau, émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son
U2 Diego à Clopès. Demain, y a-t-il un océan entre la métropole et l'outre-mer? Oui, nous parlerons encore un petit peu de géographie, mais surtout de la façon dont la métropole assume ou n'assume pas, d'ailleurs peut-être, ses outre-mer et ses ultramarins. Juste après le rappel des titres, on va retrouver Mathilde Serrel et Martin Kenen pour Ping Pong. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir Hervé, mais c'est tout de suite. Nous sommes là.
Ah ben alors, bonsoir.
Eh bien, ce soir, dans Ping Pong, nous allons en Jamaïque, à l'occasion de la grande exposition Jamaïca de Marley au DJ, expo qui démarre le 4 avril et qui durera jusqu'au 13 août à la Cité de la Musique, à la Philharmonie de Paris.
Avec Seb Carayol, qui en est le commissaire, qui avait déjà mené une exposition à la Gaîté Lyrique à Paris sur les Sound Systems, accompagné de Thomas Vendriès, qui signe le catalogue à la découverte prolongement universitaire, on va dire, de cette exposition sur la Jamaïque.
On vous retrouve dans un instant après le rappel des titres.